repose avant tout sur la religion matérialiste du bonheur terrestre par la consommation et de la satisfaction toujours renouvelée des désirs.
Tension, parasites et courants vagabonds. Pour donner la parole à des personnes en lutte contre l'uniformisation de ce monde, le bétonnage des terres et les diverses formes de domination qui s'exercent sur nous au quotidien.
Mais vous êtes fous ! Oh oui ! Mais vous êtes fous !
Bonjour chères auditrices, chers auditeurs de Radio Sainte-Afrique. Bienvenue sur Tension Parasite et Courant Vagabond qui revient sur les ondes pour cette nouvelle saison. Pour commencer l'année, un sujet dont vous avez déjà sûrement entendu parler plus d'une fois, surtout si vous suivez attentivement notre émission. Ce mois-ci, nous allons parler, encore une fois, de ce fameux projet de transformateur à Saint-Victor et des éoliennes industrielles qui l'accompagnent.
Nous commencerons cette émission par une petite explication sur les liens entre le transformateur de 7 hectares à Saint-Victor et les nombreux projets de parcs éoliens éparpillés dans tout le sud d'Aveyron. Ensuite, nous irons nous balader sur le plateau de Saint-Victor pour rencontrer les propriétaires de terres convoitées par RTE et un membre de l'association Plateau Survolté qui nous expliqueront comment se passe la mise en place de ce projet.
Puis nous finirons en nous plongeant dans la grande question de l'éolien industriel.
Actuellement, sur la commune de Saint-Victor et Malvieux, il y a un transformateur de 1,5 hectare qui permet de centraliser l'électricité d'origine hydraulique et éolienne produite aux alentours et de la renvoyer sur le réseau régional. Aujourd'hui, ce transformateur est saturé. Au vu des nombreux projets de parcs éoliens qui sont prévus dans le coin, il est nécessaire de prévoir de nouvelles infrastructures pour évacuer l'électricité produite. Cette énergie-là ne sera pas distribuée localement, mais a pour vocation d'être revendue sur le marché international, notre département produisant déjà suffisamment d'électricité pour sa propre consommation.
Ce nouveau transformateur permettra de centraliser l'électricité produite par les éoliennes à venir et d'augmenter son voltage en 400 000 volts. C'est ainsi qu'elle pourra être envoyée sur le réseau international et voyager sur de très longues distances sur les lignes très haute tension. La puissance prévue du transformateur à Saint-Victor est de 2100 MW. Sachant qu'une éolienne a une puissance moyenne de 2,5 MW, combien pourra-t-on en mettre? Le calcul n'est pas très compliqué. Un peu moins d'un millier, réparti dans tout le département et les zones frontalières.
Vu l'ampleur de ce projet, nous avons eu envie de nous plonger dans ce sujet brûlant qui soulève bien des questions. Pourquoi tant de projets d'éoliennes dans un département déjà excédentaire en production d'électricité? À qui et à quoi va servir ce courant? Pourquoi tant de grands groupes financiers s'intéressent de si près aux énergies renouvelables? Et surtout, quels sont les enjeux et les répercussions d'autant d'installations industrielles sur ce territoire que nous habitons?
Commençons par le fameux transformateur. C'est RTE qui a en charge le projet. RTE, Réseau Transport Énergie, c'est une filiale de EDF. C'est eux qui se chargent de l'entretien du réseau d'électricité, c'est-à-dire des transformateurs et des lignes haute tension et très haute tension qui permettent d'acheminer le courant.
Comment protéger l'environnement sans nuire à l'économie? Comment participer à l'effort collectif sans renoncer au progrès de la technologie? Pour les pouvoirs publics, l'industrie et les citoyens, cette transition énergétique est un défi. Pour relever ce défi, nous devons nous appuyer sur ce qui nous relie, le réseau de transport d'électricité, les autoroutes de l'énergie. Gérée par RTE, une entreprise publique au service de la collectivité.
Les autoroutes de l'énergie, un nouveau concept, très en vogue à l'Élysée. Aujourd'hui, le gouvernement et ses petits amis de la grande finance aspirent à devenir un leader dans le marché international de l'énergie. Plus question d'indépendance énergétique à l'échelle d'un pays. L'ambition actuelle est de construire un réseau d'électricité qui s'étend du sud de la Russie au nord de l'Afrique. Ainsi, plus de limites de production, on pourra toujours revendre encore plus loin l'électricité. Le marché devient illimité, tout comme les projets de centrales de production qui fleurissent de partout, de la construction d'un nouvel EPR à Flamanville, au développement massif des énergies renouvelables, l'éolien, la biomasse, en passant par le solaire et l'hydroélectricité, sans oublier les centrales à gaz et les centrales à charbon. Chaque région a son lot de projets.
Laissons la parole au sympathique président de la Bourse européenne de l'électricité.
La bonne dimension pour l'énergie, c'est clairement l'Europe. Il faut essayer d'optimiser l'existant, le bouquet énergétique existant. Nous n'avons pas de politique énergétique commune. Ce que nous pouvons tenter de faire aujourd'hui, c'est de rendre les interconnexions existantes et leurs capacités utilisées à 100% et de la sorte fluidifier les échanges aux frontières. Au lieu d'avoir une offre et une demande qui sont confrontées au niveau national, elle sera confrontée au niveau des régions connectées, des pays connectés et in fine de l'Europe entière. Nous sommes en train d'essayer de bâtir l'euro de l'électricité en quelque sorte. Il faut prendre conscience que nous ne sommes plus dans une illusion d'indépendance énergétique, mais d'interdépendance énergétique. Et à partir du moment où on reconnaît cette réalité-là, l'interdépendance énergétique au niveau européen, il faut la rendre la plus efficace possible. Cette efficacité européenne, elle passe par des mécanismes de marché, mais pas seulement. Elle passe aussi par des politiques fiscales adaptées, par l'harmonisation, utiliser tous les outils dont nous pouvons disposer pour rendre l'Europe de l'énergie plus efficace.
Ces décisions prises dans des colloques internationaux entre les industriels, les financiers et les gouvernants se traduisent localement par des projets d'industrialisation de nos campagnes. C'est ainsi que la commune de Saint-Victor se voit attribuer la lourde tâche d'accueillir un transformateur de 7 hectares. Ce printemps, nous avions rencontré les propriétaires des terrains convoités par RTE et un membre de l'association Plateau Survolté. Voici une petite rediffusion de cette interview. Mais avant ça, une petite pause musicale avec Kiri Christmanson.
I think we are going down when the city rises and the ocean rises. I think we are going down and I hold on to you and I hold on to you and I think God is breathing in. And if you didn't believe, you better know. Because I think we are going down. If I don't know, so hold on to you, and I hold on to you, and I hold your hands on my hips. I say, do you believe that God is in our pleasure? You know I believe, I believe, I believe, I believe in the rhythm is good, and the rhythm is good, and the rhythm is good, and I know. Sing when my baby cries, and all is a song. And the wind blows when my baby sighs, and all is a song. And my baby keeps a beat when he's walking down the street. I say your rhythm is good, and the rhythm is good, and the rhythm is good. And I hold on to you, but I think we are going down. I hear the trumpet call and the marching band. I think we are going down. The colors flash by so fast.
Le projet, il est présenté depuis 3 ans. Disons que c'est le 7e projet qu'ils nous présentent. Parce qu'au départ, ils avaient commencé sur 10 hectares. Après, ils ont changé de lieu. Ils ont changé plusieurs fois. La première fois, on les a empêchés, puisque quand le géomètre est venu pour faire le levé de terrain, on s'est opposé à ceux qui pénètrent sur les terres, donc ils sont repartis chez eux. Après, ils ont changé de lieu, ils sont partis donc, chez Marie-Claire. Là, ils nous ont plus rien demandé, quoi. C'est un projet qui est mené par RTE, et ils font ça pour recevoir des énergies renouvelables, quoi, uniquement. Et un raccordement sur la 400 000, la ligne 400 000 qui passe à proximité de leur nouveau projet.
Parce qu'il y a déjà un transformateur qui existe.
Voilà, alors nous avons sur la commune un transformateur qui se situe au Planol et donc qui draine toutes les éoliennes de la région. Et actuellement, au Planol, il y a un projet, ils vont changer 2 transformateurs et ils vont en créer un nouveau parce qu'ils n'ont apparemment pas suffisamment de stockage. Il y a une ligne de 400 000 et il y a 18 lignes sur la commune. Parce que du fait qu'il y a le poste du Planol, tout se greffe dessus.
Donc ce projet, il a suivi une concertation. Il y a eu 3 phases de concertation. D'abord pour choisir la commune, donc il a été voté que ça serait sur la commune de Saint-Victor. Donc première concertation. Après, ils ont parlé des sites sur cette commune. Alors à cette concertation étaient invités les politiques, c'est-à-dire les maires des communes, le conseiller général, et puis des représentants de diverses associations de nature, les organismes agricoles, etc. Enfin, tout le monde, sauf les propriétaires, les gens communaux, voilà, qui n'étaient pas du tout convoqués à ces concertations. Alors ces concertations, tout le monde a approuvé, tout le, plus ou moins. Il y a eu quand même quelques réserves de la part de certaines associations au sujet de la nature, tout ça. Mais sinon, ça a été approuvé. Et à la troisième concertation, ils ont choisi le site actuel sur, qui s'appelle La Plaine. Voilà. Nous sommes toutes les deux, Monique et moi, concernées. Et là, on a manifesté violemment lors de la troisième concertation. Et c'est parti au ministère, et le ministère a approuvé le projet. Par contre, maintenant, pour déposer le dossier de demande d'utilité publique, il est nécessaire qu'ils affinent maintenant le projet. Donc, pour l'instant, ils veulent étudier le sous-sol, parce que c'est une zone où il peut y avoir des grottes, des avennes, des creux quelconques. Donc, ils ont besoin de savoir comment est le sous-sol, d'où on en est là.
Nous, pour notre part, on est contre, tout à fait contre ce projet. Donc, on a refusé systématiquement qu'ils viennent sur nos parcelles faire des études. Donc, Marie-Claire, c'est pareil. Et l'association Plateau Survolté est avec nous aussi. Donc, on est tous, tout le monde est venu sur les lieux pour intervenir et essayer de les repousser le lundi 6 mai. Voilà. Et ils sont repartis. Il y a eu huissier, il y a eu gendarmerie, mais bon voilà, ils ont constaté, puis terminé. Mais jusqu'à la prochaine, quoi. Nous étions une centaine. Tout le monde a été là présent, on a fait une chaîne humaine.
Comment, par rapport à ce projet-là, comment se positionne la mairie?
Bon, la mairie, maintenant, ils ne veulent pas entendre parler de ça, parce que bon, c'est vrai qu'ils ont été un peu secoués, il faut le reconnaître. Ils n'ont jamais été clairs, il ne fallait pas, surtout pour en parler du projet, il fallait absolument rien dire. Et ça, c'était quand même moche vis-à-vis de la population, parce que normalement, les élus, ils sont là pour informer la population, et là, ça n'a pas été du tout le cas. D'ailleurs, on a fait une manifestation quand on a appris le truc devant la mairie, qui a été bruyante. Alors, chaque fois qu'il y avait une délibération à prendre au sujet du poste, on a assisté aux réunions, on s'est retrouvés dans une soixantaine. La population est contre, mais les élus ne nous ont vraiment pas aidés, parce que bon, maintenant, ils disent qu'ils sont neutres.
Peut-être au départ, ils n'ont pas réalisé de l'importance du transfo qui allait se faire. Je crois que c'est ça, mon départ. Dès le départ, personne n'a vu que 10 hectares, c'était énorme pour un transformateur et que ça allait avoir des conséquences très lourdes quoi, pour la région.
Parce que vous êtes agricultrice et vous cultivez ces parcelles.
Mais tout à fait, c'est notre moyen de vie, quoi. Enfin, c'est notre outil de travail. C'est l'outil de travail qu'on nous prend. En plus, nous, on a deux enfants qui sont jeunes et qui sont installés. Donc, on leur prend l'outil de travail. Et sur Saint-Victor, il faut quand même savoir qu'il y a très peu de SAU. La SAU, vous savez ce que c'est, la surface agricole utile. Il y en a très peu sur la commune de Saint-Victor-en-Mélieu. D'ailleurs, on n'est que deux, trois exploitations agricoles sur la commune. Si on nous prend, au départ, c'était ces 10 hectares. Maintenant, aujourd'hui, ils ont rétréci à 5. Mais c'est pour mieux agrandir par la suite. Il ne faut pas se leurrer non plus. Donc, ça veut dire que ça supprime encore d'autres exploitations. Donc, ça veut dire que... Par la suite, si ce transformateur, puisque c'est lié avec les projets d'éoliennes industrielles, si ce fait, il y aura beaucoup d'éoliennes industrielles qui vont se quiller, quoi, hein, on va préférer louer nos terres pour planter des éoliennes plutôt que favoriser l'agriculture. Et donc ça va détruire toute l'activité économique agricole du coin.
Oui.
Donc c'est tout le secteur qui va en dépendre. Et d'autre part, bon, il y a l'agriculture, mais il y a aussi tout le tourisme, l'environnement, enfin tout. Moi, pour moi, la région est fichue. Ils se transforment, ça fait quoi. RTE, la dernière fois qu'ils sont venus, puisque ça fait quand même 3 ans que ça dure, quand ils sont arrivés, moi, je leur ai dit, vous revenez nous voir, et est-ce que vous nous amenez quelque chose de concret? Puisque, bon, ils savent très bien qu'on a deux enfants qui sont agriculteurs. Vous avez quelque chose de concret à nous proposer? Il me dit, le concret, c'est ça, en me montrant le plan du transfo. Et je dis, mais vous comprenez bien que ça ne nous arrange pas, nous, on ne va pas être d'accord. Jamais de la vie, quoi. Donc, ils n'ont rien, puisqu'en fait, ils sont liés aussi avec la Chambre d'agriculture, il y a une certaine charte qu'ils ont passée entre eux, la Chambre d'agriculture et RTE. Mais la Chambre d'agriculture ne propose rien non plus. Bon, ils ne peuvent pas nous proposer grand-chose, il n'y a pas d'autre terrain.
Et par rapport à ça, j'imagine qu'ils proposent quand même des enveloppes, de l'argent à la commune et aux propriétaires.
À la commune, c'est possible. Nous, jusqu'à maintenant, ils ne nous ont rien proposé, rien. Ils nous ont dit que, bon, éventuellement, ils nous paieraient ces terrains au prix où la Chambre d'agriculture les estime, c'est-à-dire à 3000 euros l'hectare environ, un truc comme ça. Donc, de toute façon, nous, on est contre. Et puis voilà.
Du coup, vous êtes lancé dans un bras de fer contre RTE et la mairie à la fois et la Chambre d'agriculture.
Tout à fait. Et c'est vrai qu'on est dans une très mauvaise position, mais bon, c'est notre position.
Pour l'instant, si on leur laisse rentrer sur le terrain, on est vraiment absent, ça en est fini. C'est vrai qu'il ne faut pas leur donner le moindre espoir.
Je leur ai dit depuis le début, et je le répète chaque fois, je ne leur vendrai pas. Je ne me vois pas signer chez un notaire que je me débarrasse de ces terres. Moi, j'y tiens, ça représente mon héritage. C'est nos racines, ouais. C'est mes parents, mes grands-parents qui ont défriché tout ça. C'est tous les gens qui ont travaillé pendant des générations, qui ont apporté chacun, et même ceux qui travaillent actuellement, qui font casser les cailloux, qui donnent de la valeur à ces champs en plus. Vendre ça, c'est trahir nos ancêtres, notre famille, moi je le vois comme
ça depuis le début. Toujours pour l'avenir, pour les gens à venir. Mais il faut quand même peut-être penser un peu aux anciens.
On démolit toute une structure, tout un habitat, c'est inadmissible.
Est-ce que cette présence du transformateur ou d'intretention, vous constatez des impacts, conséquences?
Déjà, on va perdre l'école. À la rentrée prochaine, il y a un poste qui saute. Ben, les jeunes ne veulent plus venir. Les jeunes qui avaient projeté de construire ici, dès qu'ils ont appris qu'il y avait le projet du poste, ils ont changé de crémerie, ils s'en vont ailleurs. Hein. On va faire des friches industrielles, quoi. Il n'y aura plus de vie. Hein.
Pour l'instant, moi, on ne parle pas trop des nuisances sur la santé, mais on se pose des questions quand même. Il y a des problèmes de santé dont on se demande si ça ne peut pas être imputé. Bon, on ne peut pas le prouver actuellement, mais je vois que sur les lois européennes, là, ils commencent à revenir un petit peu. Ils ont revu les normes c'était à 100 microtesla, maintenant c'est ramené à 1 autour des points où il y a des enfants, les écoles, les crèches, etc. Donc c'est bien quand même qu'il y a des craintes de gros impacts sur la santé. Et on ne peut pas dire, bon, est-ce qu'on est plus malade qu'ailleurs ici, j'en sais rien, mais bon, on a quand même les cas de problèmes de thyroïde, les acouphènes, etc. Et en plus, actuellement, il semblerait que la ligne 400 000, elle n'est pas chargée à bloc. Non. Donc, comme on sait que le rayonnement électromagnétique est proportionnel à l'intensité qui circule, et que quand ils viennent faire des mesures, on ne sait jamais quelle est l'intensité de la ligne, alors que dans tous les postes, ça se sait, quoi. Je veux dire, ceux qui le font circuler le savent. Ils ne veulent pas nous dire combien il y a au moment où on mesure. Donc, c'est des mesures dont on ne sait pas quelle valeur elles ont. Alors, quand la ligne sera chargée à bloc, et qu'elle sera doublée, puisqu'ils vont la doubler, en faire une deuxième sur les mêmes pylônes. Qu'est-ce qu'on va avoir comme rayonnement? Ça fait peur. Reconnaissent maintenant que c'est la grande autoroute d'électricité qui descend en Espagne et qui va passer au Maroc, etc. Alors que jusqu'à présent, moi quand je disais, mais enfin cette ligne quand elle a été construite, elle s'appelait Ruer-Barcelone. Ne me dites pas qu'elle n'est pas continuée jusqu'en Espagne. Alors maintenant, ils le reconnaissent et ils disent que c'est normal. Maintenant, on sera en réseau, toute l'Europe avec l'Afrique, et voilà. Et ils ont changé leur discours.
Le réseau de transport d'électricité. Les autoroutes de l'énergie, gérées par RTE, une entreprise publique au service de la collectivité. Ce sont 100 000 km de lignes à haute et très haute tension qui connectent les centrales de production aux sites industriels et aux réseaux de distribution.
Face à votre refus, est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts à aller jusqu'à l'expropriation de vos terres?
En septembre, ils m'ont dit oui, puisque vous voulez pas céder, on vous expropriera.
Non, mais disons que nous, le jour où ils sont venus, on était assez révoltés, puisqu'on était tous les quatre, et si tu veux, on leur a dit d'entrée que bon, de toute façon, on ne vendrait pas. et que s'il fallait être exproprié, on serait exproprié, qu'on n'avait rien à perdre, quoi. Hein. Donc ils sont restés sur cette position et on n'a pas discuté davantage là-dessus.
Et alors, les actions du plateau survolté, hormis les blocages de RTE quand ils arrivent sur le terrain, quel autre moyen d'action vous avez ?
Comme action, le plateau survolté, ils font paraître beaucoup d'articles dans la presse, ils contactent d'autres associations. Ils ont une bonne action pour centraliser, pour se faire connaître. Il y a de l'efficacité, je trouve. Et la preuve, on a fait tomber le projet de 10 hectares. À 5 quand même, en se battant comme ça depuis le début.
Les gens prennent conscience dans la région que s'il y a ce transfo, il y aura une multitude d'éoliennes. Mais il faut en prendre conscience aujourd'hui, quoi. Il est temps d'en prendre conscience.
Ce qu'il faut faire de prendre conscience, c'est aux gens de la ville. Ils disent les éoliennes, ça ne nous dérange pas, on ne les voit pas, ni rien. Mais l'éolienne coûte trop cher et donc il est subventionné. Et par conséquent, les subventions, c'est quoi? C'est bien l'argent de qui? Des contribuables. Donc, si on ne veut pas que l'électricité augmente, il faut arrêter les éoliennes, sinon on va avoir le courant, on va payer 20, 30, 40, 50 fois plus.
Les éoliennes industrielles, ils viennent d'accord. Oui.
C'est sûr que s'il y a une mobilisation très forte...
Ah mais plus il y a du monde, ça leur fait peur quand même. Bon. Ils n'aiment pas qu'il y ait du monde. On est le pot de terre contre le pot de fer, là, c'est sûr. Mais ce n'est pas une raison de lâcher, il faut tenir. Et on pense qu'en les repoussant comme on fait, on arrivera à quelque chose.
Depuis cet été, le processus s'est un peu accéléré. Monique et Marie-Claire ont comparu au tribunal, suite à une grande mobilisation au printemps dernier qui avait permis d'empêcher le géologue d'accéder aux terres. Elles sont accusées d'empêcher le travail de RTE en s'opposant aux études sur le terrain. Le rendu du procès est une ordonnance qui menace quiconque s'obstruant à l'avancée des travaux à 1 500 € d'amende et autorise RTE à venir quand il veut sur le terrain sans avoir besoin de prévenir qui que ce soit.
C'est ainsi que depuis plus de 3 semaines, l'étude sur le terrain a commencé. Un géologue lyonnais a travaillé 2 semaines pour sonder les terres. Maintenant, ce sont 2 agents de géotech qui sont à l'œuvre avec leur foreuse, venue de Dijon. Mais les opposants ne baissent pas les bras. Ils alertent la population en enterrant symboliquement leur commune et en tractant sur les marchés. Ils vont voir les agents de RTE sur le terrain pour leur dire ce qu'ils pensent de leur travail. Il y a même des fantômes qui ont hanté les 2 techniciens, perturbant ainsi leur travail. Une petite pause musicale avant de se lancer corps et âme dans la problématique de l'industrie qui nécessite ce transformateur. Vous l'aurez deviné, c'est l'éolien industriel.
Não maltrate o que sou, aceite o que sou, não, não mude o que sou, não, não maltrate o que sou. Não, 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 não. E quem bate não lembra quem bateu, não tá a fim de lembrar, não pergunta se doeu, diz que o amor não vai matar. Quem bate não lembra quem bateu, não tá a fim de lembrar, não pergunta se doeu.
Nous sommes toujours sur Radio Centrafrique, au cœur de l'émission Tension Parasite et Courant Vagabond, consacrée au transformateur de Saint-Victor et à l'éolien industriel.
Refuser le transformateur pose la question des éoliennes industrielles. Difficile de critiquer l'éolien après des années de matraquage médiatique qui nous font miroiter une sortie de nucléaire grâce aux énergies renouvelables. Et quoi de plus formidable et révolutionnaire que de faire de l'électricité avec du vent ? Bien malheureusement, cette belle idée, une fois entre les mains des gros groupes industriels, devient un désastre écologico-financier.
L'éolien industriel, aujourd'hui ce sont des machines de 150 mètres de haut en moyenne, pour un poids de 1800 tonnes environ. Un socle de béton de 1500 tonnes, auquel il faut ajouter le poids du mât et des pales qui équivaut à 300 tonnes. Chaque éolienne contient 4 tonnes de cuivre, extraites dans des mines en Amérique latine, dans les conditions qu'on vous laisse imaginer. Une éolienne industrielle standard représente 3 millions d'euros d'investissement. Autant dire qu'un tel investissement n'est pas à la portée d'une commune et encore moins de particuliers, mais seulement de gros groupes financiers. Et ces temps-ci, cette industrie est en plein essor.
Qui investit dans l'éolien ? Quelles raisons mystérieuses amènent des gros groupes industriels à s'intéresser autant aux énergies renouvelables ? C'est ce que nous allons voir avec Jean-Claude, un Auvergnat qui va nous partager le fruit de ses recherches.
Alors, il faut bien comprendre qu'il y a trois catégories de gens qui investissent dans l'énergie éolienne. Il y a les exploitants de centrales thermiques, les spécialistes du nucléaire et les petits promoteurs. Alors, on va commencer par les exploitants de centrales thermiques. Le plus gros investisseur exploitant de centrales thermiques dans le département, c'est Gaz de France, qu'on appelle maintenant Gaz de France Suez. Quand je vais sur la page d'accueil de Gaz de France sur Internet, qu'est-ce que je vois ? Je vois une éolienne. Gaz de France Suez, premier producteur éolien en France. L'éolien, pourtant, ne représente pas grand-chose. C'est que 1% de leur production. Alors, pourquoi est-ce qu'ils continuent dans l'éolien ? Pour sauver la planète ? C'est pas sûr. Il y a peut-être une autre raison. Vous voyez là la production totale des éoliennes en France pendant le mois de décembre. C'est jour par jour et il y a un point toutes les 3 heures. Et vous voyez que cette production, elle est très erratique. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et encore, si on prenait un site tout seul, ça serait encore pire, parce que là, il y a un certain effet de compensation qui joue. Quand il y a du vent en mer du Nord, il y en a moins en Méditerranée, et vice-versa. Alors quand c'est en haut, ça va, c'était les éoliennes qui produisent, mais dès qu'il y a un creux, il faut mettre en vitesse, en route, une centrale à gaz. Et ça, c'est tout bénéfice pour Gaz de France, ils vendent du gaz, parce que les centrales à gaz sont les seules qui peuvent réagir aussi vite, ils vendent du gaz. Et donc voilà pourquoi Gaz de France Suez investit dans l'éolien, parce que plus il y a d'éoliennes, plus il y a de centrales à gaz et plus on vend de gaz. Après les opérateurs de centrales thermiques, deuxième catégorie, les acteurs du nucléaire. Alors en France, il y a deux grands acteurs dans le nucléaire, c'est EDF, l'exploitant, et puis Areva, le constructeur de centrales nucléaires. EDF, très grosse filiale, EDF Énergie Nouvelle, spécialisée dans les énergies renouvelables. Mais quand vous allez sur le site d'EDF Énergie Nouvelle, qu'est-ce que vous voyez ? 90% des énergies renouvelables de EDF Énergie Nouvelle, c'est l'éolien. Là aussi, l'éolien est en vedette. Areva, alors Areva qui construit les centrales nucléaires, mais il a dépensé beaucoup d'argent pour acquérir une technologie de construction d'éoliennes. Alors pourquoi EDF et Areva sont intéressés à faire des éoliennes et à parler d'énergie nouvelle ? Ben, il y a aussi une raison. C'est que ça les sort un peu de l'image du nucléaire, où là, le nucléaire il n'est pas très apprécié des écologistes, est-ce que des éoliennes, ça plaît. Donc voilà, ils se donnent une image verte en construisant des éoliennes. Et puis il y a un deuxième intérêt pour EDF. En ce moment, EDF est un peu gêné aux entournures financièrement, on le sent, puisqu'il réclame des hausses de tarifs. Il faut savoir que capacité équivalente, une centrale à gaz, ça coûte 3 fois moins cher qu'une centrale nucléaire. D'accord, ça prend du courant plus cher, mais au moins ça coûte 3 fois moins cher. Donc sur le court terme, EDF est bien plus intéressé à faire des centrales à gaz qu'à faire des EPR. D'investisseurs, les promoteurs, ce sont des petites entreprises, en général 15 à 40 personnes. Ce sont essentiellement des financiers qui s'associent avec des bureaux d'études pour étudier des parcs éoliens et puis ils achètent leurs machines et les grands constructeurs. Parlons d'un français, Teolia. C'est un promoteur qui est coté en bourse. Voilà, je vais sur leur page internet et qu'est-ce que je vois ? Teolia cède une ferme éolienne dans la Somme. Tiens. Yvan, il n'a pas envie de l'exploiter lui-même, il la cède. Regarde leur communication et qu'est-ce que je vois ? Ben là, je vends, je construis des centrales, mais aussi j'en vends. C'est-à-dire que Teolia, il est parti dans un grand jeu de Monopoly, et maintenant ça devient la règle dans l'éolien. Il y a des gens qui bâtissent des projets, et puis il y a des gens qui ensuite les rachètent. IKEA. On peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'IKEA va acheter un champ d'éoliennes ? Ben IKEA, il faut se rappeler, on lui reproche beaucoup de faire des meubles à l'étranger, en Chine, en Indonésie, de les importer en Europe avec des bateaux qui consomment du carburant, qui polluent la planète. Donc IKEA, il a dans sa politique actuelle de s'acheter une image verte. Alors j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui s'intéresse à l'éolien lui aussi. Vous n'allez pas le croire. Et bien McDonald's, il est passionné par l'éolien. À partir du 1er janvier 2010, McDonald's France couvrira 100% de ses consommations de ses restaurants avec 100% d'électricité d'origine renouvelable. Voyez, maintenant, quand vous allez chez McDo, vous vous branchez sur la prise électrique, c'est que du courant propre. Il n'y a pas de courant nucléaire, il n'y a pas de courant thermique, c'est que de l'éolien et du photovoltaïque. Alors ça, c'est un miracle extraordinaire. Donc j'ai essayé de comprendre, parce que ça m'étonnait qu'on puisse choisir le type de courant qu'on a à la prise électrique. Le patron de McDonald's France, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dévoile la supercherie, bien sûr. J'achète à une société qui s'appelle Green Access des certificats verts. Alors c'est quoi un certificat vert? Vous voyez, je suis promoteur éolien. À chaque fois que je produis 1000 kW, j'émets pour 1000 kW de certificats verts. C'est du papier, hein, simplement. C'est des petits bouts de papier, mais avec un beau tampon. Alors ce fameux Green Access qui fournit les certificats verts, là aussi, toujours pareil, je suis curieux. Je suis allé voir qui c'était. Il explique ce que c'est qu'un certificat vert. Un certificat vert, c'est la séparation de la valeur physique de l'énergie de sa valeur verte, un outil de traçabilité, un outil de comptage. C'est-à-dire que le certificat vert, c'est écrit, permet d'identifier et de suivre l'électron et ce, de sa production jusqu'à sa consommation. Vous vous rendez compte, l'électron qui vient de l'éolienne, on le suit dans tous les fils et tout, dans tous les transformateurs, et on est sûr que c'est bien l'électron de l'éolienne qui arrive chez vous. Mais je ne connaissais pas la couleur de l'électron, j'ai appris maintenant qu'il y avait des électrons verts, les autres, je ne connais pas leur couleur.
Alors, pour mieux comprendre cette histoire de crédit carbone, ces certificats verts dont vient de nous parler Jean-Claude, voici l'extrait d'un documentaire d'Arte qui en parle très bien.
L'arnaque des crédits carbone. Petit voyage dans le temps, nous sommes en 1997 au sommet international de Kyoto et pour lutter contre le réchauffement climatique, les grandes de ce monde adoptent un curieux mécanisme. Les pays, les entreprises se voient attribuer des quotas de CO2, des droits à polluer. Ça, c'est très bien. Sauf que ceux qui ne consomment pas tous leurs crédits pollution sont autorisés à les revendre à ceux qui en ont besoin. En clair, les plus pollueurs rachètent aux moins pollueurs. Bref, on a créé un marché des émissions de CO2 qui représenterait aujourd'hui, selon Europol, près de 90 milliards d'euros de transactions. Ce système a inspiré à certains petits malins des malversations, des manipulations écologico-financières à n'en plus finir. Au final, certains se sont enrichis et la planète, elle, a continué de se réchauffer avec la complicité des instances internationales.
Les pays qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre doivent acheter des permis de rejet de CO2. Et ceux dont les émissions sont faibles peuvent vendre leurs quotas excédentaires. Ce système d'échange de quotas vise à encourager les technologies propres. Cet instrument de politique environnementale a été créé dans le cadre du protocole de Kyoto en 1997. Pourtant, au lieu de diminuer de 5% au niveau mondial, les émissions de CO2 ont augmenté de 40%. L'Union européenne attribue gratuitement un quota annuel de permission d'émissions de CO2 à certains sites industriels. Ce quota diminue année après année. Les entreprises qui dépassent le volume d'émissions allouées doivent acheter des crédits sur le marché du carbone. A l'inverse, les entreprises qui ont des crédits excédentaires peuvent les vendre sur le marché en réalisant ainsi un bénéfice.
Ce que vous voyez à l'écran, c'est notre plateforme boursière appelée WebICE. C'est celle qu'utilise la majorité de nos clients pour échanger des droits d'émission sur les marchés mondiaux du carbone. En regardant l'écran, au moment où je vous parle, on voit que 10 000 traders environ sont en train d'effectuer des transactions sur notre plateforme. Chaque crédit carbone donne aux acheteurs l'autorisation, sous forme dématérialisée, d'émettre une tonne de CO2.
En un seul clic, des courtiers issus de toute l'Europe peuvent ainsi approvisionner les entreprises en droits à polluer. Cet ancien député écologiste allemand analyse depuis des années le marché du carbone.
Les industries vertueuses ne reçoivent rien en récompense de leurs efforts. Mais celles qui ont émis pendant des années des quantités énormes de CO2 et qui tout à coup se mettent à en économiser peuvent réaliser de gros bénéfices. C'est aberrant. À mon avis, beaucoup de ces mécanismes ne fonctionnent pas et sont frauduleux.
Pour le monde de la finance, en revanche, le commerce des droits d'émission est florissant. En juillet 2012, nous interviewons un courtier en bourse à Düsseldorf. Il achète et vend des crédits carbone pour le compte de différentes entreprises.
Du point de vue de l'exécution des transactions, ça ne fait pas une grande différence pour moi si je négocie de la poitrine de porc, de la farine de soja ou autre chose.
Vous ne négociez plus de l'or ou du charbon, mais seulement des émissions de gaz à effet de serre avec de l'air chaud et pollué.
C'est exact.
Est-ce que c'est une activité rentable ?
Ça dépend pour qui. C'est rentable pour les traders, bien sûr, et aussi pour les investisseurs.
Le sauvetage du climat est donc soumis au libre jeu des forces du marché.
C'était un petit extrait d'un documentaire d'Arte consacré au crédit carbone, paru récemment à la télé. C'était Robotnica. Vous êtes toujours à l'écoute de Tension Parasite et Courant Vagabond sur Radio Centrafrique. Alors, revenons-en à ces fameux projets de parcs éoliens qui fleurissent dans les quatre coins de la France aujourd'hui. Ce n'est malheureusement pas une prise de conscience écologique des industriels, comme on voudrait nous le faire croire, mais bien un nouveau marché ultra rentable. Si tous les gros groupes financiers investissent dans l'éolien, c'est parce que cet investissement est un des plus rentables du moment. Il rapporte sur plusieurs plans.
L'éolien industriel octroie des crédits carbone qui permettent d'engranger d'énormes profits, de reverdir son image et aussi de pouvoir continuer son activité aussi polluante soit-elle, en toute impunité. Sans compter que le rachat de l'électricité d'origine éolienne est hautement subventionné par l'État et garanti sur 15 ans, ce qui permet d'équiper des sites même s'ils sont très peu ventés. C'est ainsi que plus notre cher pays va produire de l'électricité, plus nous allons la payer cher.
Et comme l'annonce le projet du transformateur à Saint-Victor, de nombreux projets de parcs éoliens sont à venir en Sud-Aveyron, un peu moins d'un millier. Les habitants du Lévézou, plus au nord du département, ont déjà vu bon nombre de machines se construire autour de chez eux. L'un d'eux a bien voulu nous rencontrer. Petit tour dans le Lévézou. Bonjour, alors est-ce que vous pouvez en deux mots s'il vous plaît vous présenter et présenter le territoire sur lequel vous vivez ?
Voilà, je m'appelle Jean Marty, je suis agriculteur à la retraite. Je suis engagé contre les éoliennes du Lévézou, mais de partout. Depuis 2008, nous avons créé un collectif quand nous avons vu notre territoire se faire envahir par les projets éoliens de partout. Nous en avons aujourd'hui 74.
Et pourquoi vous êtes contre les éoliennes industrielles ?
Parce que je me suis rapidement aperçu que c'était une erreur technique, c'était un affront écologique et un scandale financier.
Pourquoi une erreur technique ? Pourquoi un affront financier ?
Alors, une erreur technique parce qu'on produit sur les lieux de consommation, enfin, les endroits les plus reculés, là où il y a du vent, ce n'est pas forcément les endroits les plus habités, heureusement, mais il faut aller rejoindre les endroits, les transformateurs qui sont construits ou qui, justement, vont se construire parce qu'il va y avoir beaucoup d'éoliennes. Il faut aller les rejoindre pour repartir après, distribuer l'électricité avec des câbles de nouveau vers les lieux de consommation. Donc ça coûte très cher, il faut des gros câbles pour pas qu'il y ait de perte d'électricité dedans. Ça coûte très cher aux contribuables, ça coûte très cher aux consommateurs d'électricité. C'est un affront écologique parce qu'elles sont obligées d'être sur des montagnes, bien sûr, on ne peut pas les mettre dans des vallées. On ne voit que ça. Quand on vient sur le Lévézou, c'est affreux, ou qu'on regarde, on voit des éoliennes. Et puis c'est un scandale financier, parce que de toute façon, on nous fait miroiter l'argent que perçoivent les mairies ou les propriétaires terriens, mais un promoteur engrange, je parle uniquement en termes de produits d'électricité, engrange 40 fois l'argent que perçoit un propriétaire terrien. Ne parlons pas des niches fiscales, ce qu'il y a derrière. Et en plus, bien sûr, les certificats carbone, on découvre l'ampleur des certificats carbone et de la fraude aux certificats carbone derrière. Alors c'est vrai que moi, ça me révolte, quoi. C'est qu'un problème d'argent, ce n'est pas un problème écologique, l'éolien.
Quels sont les impacts de ces installations sur votre territoire, pour vous, les habitants qui vivaient à proximité?
Moi, ce qui m'a fait le plus mal au début, c'est de voir des voisins s'affronter à ce sujet. Quand on introduit le mot éolien, sans parler de projet éolien, quand on introduit le mot éolien dans une commune, on introduit la division. Quand on voyait des mères de famille dans les réunions d'école se trier en fonction de l'appartenance ou pas à l'éolien, quand on voyait à la CUMA la table des pro-éoliennes et la table des anti-éoliennes, on ne pouvait pas aborder le problème. En famille aussi, c'est un grave problème parce qu'on évite le sujet. On sait que dans la famille, il y a des gens qui sont pour, les autres qui sont contre. Et quand on évite un sujet, on en évite bien d'autres. On se laisse entraîner un petit peu par ce problème qui fait qu'on se visite moins, on se voit moins, ça détruit les relations familiales. Moi, ça m'a profondément choqué dès le début. Et puis, j'ai été à l'écoute, nous avons ensemble été à l'écoute des riverains parce que les riverains souffraient doublement. Ils souffraient des nuisances visuelles, bien sûr, parce qu'ils les avaient très proches, à 500 ou 700 mètres. Mais ils souffraient surtout du bruit que font les éoliennes et que les gens en extérieur ne perçoivent pas toujours. Et qu'il est ridiculisé en public en disant « Je ne vois pas pourquoi vous vous opposez aux éoliennes. Moi, j'y suis allé et je n'ai pas entendu qu'elles fassent du bruit. » Donc, ils souffraient de cette incrédulité des visiteurs. Et ça, c'est quelque chose, depuis qu'on a créé le collectif, on a laissé comprendre à l'opinion publique que le bruit des éoliennes, c'était difficile de le supporter. On ne pouvait pas s'y habituer parce qu'il n'était pas permanent. Et on peut avoir des éoliennes qui font du bruit, qui démarrent en pleine nuit. C'est comme si vous aviez l'avalanche dans la chambre à coucher et que vous ne pouvez pas arriver à éteindre. Voilà, c'est pareil. On a depuis fait retrouver un peu de dignité à certaines personnes qui l'avaient perdu de par le rejet qu'ils avaient de la population. Je crois que ça crée une fracture du tissu social qui est inimaginable. Nous avions suffisamment de choses qui nous divisaient dans les communes sans avoir besoin d'en rajouter.
Est-ce que ça a eu des impacts sur l'installation de nouveaux habitants?
Les impacts sur les installations d'habitants, oui. On se rend compte qu'aujourd'hui, ceux qui font des chambres d'hôtes se défendent pour ne pas avoir des éoliennes devant chez eux. Et quand ils apprennent qu'il va y avoir un projet, ben ils disent « mais si nous on avait su, on n'aurait pas investi ». Nous, on a été voir des agriculteurs, des personnes qui avaient envie d'aménager un gîte et qui nous ont dit « mais maintenant, c'est pas la peine, je pourrais pas ». Quand on a un gîte qu'on inscrit à Gîte de France, ils vous demandent obligatoirement de mentionner si vous avez des éoliennes pas loin. Et là, qu'est-ce que vous faites après? Les gens, ils posent des questions. Peut-être que vous arriverez à louer les périodes de pointe si vous avez un beau gîte. Mais forcément, à un moment donné, il va y avoir un impact. Parce que si ça tombe une période où le vent se lève en pleine nuit, où ils n'arrivent pas à dormir, eh bien, ils ne reviendront pas. Et ça se dit. Et aujourd'hui, avec Internet, tout se sait. Donc on sait pertinemment que ça va avoir des incidences.
Titule « Agissons autrement pour le Lévézou ». Ça suggère qu'il y aurait d'autres perspectives, d'autres idées de développement pour ce territoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Mais oui, bien sûr. Je pense que la balle est dans le camp des élus. Moi, je fais référence à tout le temps au Nord-Aveyron, autour d'André Valadier, qui est président des 28 communes de l'Aubrac Aveyronnais, et qui un jour s'est vu confronté au problème éolien, parce qu'il y avait quand même autant de vent sûrement que sur le Lévézou, je suppose, et où deux maires se sont affrontés un jour en réunion, en disant « moi j'ai envie de mettre des éoliennes, regardez, je les mets à tel endroit, moi je ne les verrai pas, de mon village je ne les verrai pas ». Et puis c'est l'autre maire de la commune d'à côté qui lui a dit « mais tu es dégueulasse, moi je les verrai ». Et comment ça part? On ne va pas pouvoir continuer comme ça si chacun tire la couverture vers soi. Il faut avoir un projet de territoire. Un projet de territoire, c'est quoi? C'est définir les priorités d'un territoire. Quelles sont les priorités d'un territoire? Ils ont réfléchi ensemble, ils ont dit « c'est la qualité de l'eau, l'air pur, l'image qu'on donne de l'Aubrac à travers ces deux critères ». La qualité de l'agriculture préservée, des emplois locaux, etc. Donc on définit un projet de territoire et puis après on dit que les éoliennes n'ont pas leur place là-dedans. Et c'est ce qui s'est passé dans le Nord-Aveyron. Pourquoi il est préservé aujourd'hui le Nord-Aveyron? Le Nord-Aveyron est préservé des éoliennes tout simplement parce que les élus ont dit que les éoliennes n'ont pas leur place sur le Nord-Aveyron. Et dans le schéma régional éolien, eh bien, le Nord-Aveyron est une zone blanche où on n'a pas le droit de mettre des éoliennes. Point. Par exemple, il y a un maire qui a dit à une réunion, On a mis des sommes colossales à enterrer les câbles électriques pour que ce soit très beau, pour qu'on ait un attrait touristique impeccable. Puis maintenant, on va mettre des tas de ferraille à la campagne. C'est pas faisable, c'est pas raisonnable. D'autant plus que si ça servait à quelque chose, si c'était un projet d'intérêt public, mais ce sont des projets d'intérêt privé, et que je sache... Aujourd'hui, ce sont des enquêtes publiques. C'est toute la différence avec les enquêtes d'utilité publique. Si ces éoliennes étaient un bien d'intérêt public, on aurait dit à un agriculteur ou à un propriétaire foncier, il y aura une éolienne là, parce que c'est un besoin pour la nation. Là, non, c'est pas ça. Imaginez le contrat qu'on propose justement à nos propriétaires fonciers. C'est le locataire, à l'occurrence le promoteur, qui a fait toutes les règles, dans un contrat qu'il propose au propriétaire. Vous avez vu ça où ? Ni dans l'immobilier, ni dans l'agricole, on a de ce type de contrat. C'est incroyable. Les propriétaires fonciers qui ont ce contrat en main, souvent ne le lisent pas ou ne comprennent pas tout ce qui est écrit. Parce qu'il a été fait par des professionnels. Moi, je connais même des gars qui avaient un contrat de 4 pages, qui faisaient référence à un contrat de 40 pages. Sur le contrat de 40 pages, il y avait tout. Mais l'agriculteur n'avait lu que les 4 pages. Donc, il était perdu. J'allais dire, il avait signé n'importe quoi parce qu'il n'avait pas tout lu. Et il avait 7 jours pour se rétracter, comme quand on achète un lave-linge, alors qu'il venait de signer un bail emphytéotique. Voilà. Voilà aujourd'hui l'arnaque financière. Je les plains, moi je ne voudrais pas être à leur place, et j'aurais pu être à leur place. Parce que moi je suis propriétaire foncier, et quand les premiers projets sont arrivés, on serait venu me voir. Je suis à peu près sûr que j'aurais signé moi aussi.
Quelles sont les actions qui sont menées par votre collectif, et qu'est-ce que fait l'opposition ?
C'est très difficile de mobiliser sur ce sujet quand on est dans un secteur comme le Lévezou, où il y a énormément de propriétaires fonciers qui vivent de l'agriculture quoi, difficilement, et qui ont envie de voir un complément de revenus. Et on leur propose 6000 euros par éolienne et par an. Ils n'ont pas encore perçu le chèque, qu'ils savent déjà ce qu'ils vont en faire. Alors, vous savez, je me mets à leur place aussi. Hein. Nous, on a misé notre position d'abord sur l'information des médias. Au début, on avait des articles qui nous étaient défavorables, où les promoteurs profitaient un petit peu de la belle image de l'éolien. Alors, on a fait des actions. On avait fait en 2009 pour mettre un petit peu la pression sur le préfet qui aurait pu signer pour 32 éoliennes. On avait fait la ronde des éoliennes où il y avait eu quand même 100 voitures. On avait fait la ronde des éoliennes, on avait fait le tour des villages qui étaient impactés, qui risquaient de l'être. Et ça, ça avait eu un retentissement médiatique important. Donc, et effectivement, le préfet... on a eu un préfet, Vincent Bouvier, qui a refusé quand même 32 éoliennes sur le Lévezou, mais qui n'est pas resté longtemps du coup. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais je pense que ça a dû jouer aussi. On va à la catastrophe si on laisse en France s'implanter 20 000 éoliennes. Pour nous, c'est un appauvrissement de la région sur le long terme. L'éolien, c'est que du court terme. Quand on raisonne le court terme, on peut être pour l'éolien, pour l'argent qu'il amène. Mais sur le long terme, quand il y a un pays qui se vide, quand vous avez des artisans qui vous disent « mais moi, mes enfants, à côté des éoliennes, ils ne veulent pas venir s'installer », quand un agriculteur vous dit « moi, mon fils, il avait envie de faire agriculteur, il a été salarié jusqu'à ce que j'arrive à la retraite, maintenant il ne veut plus venir s'installer là », qu'est-ce que vous voulez faire ? Sur le long terme, on sait bien que c'est une catastrophe pour l'économie locale. On a l'impression qu'ils veulent créer un désert pour pouvoir en mettre davantage. Ben nous, on résiste.
Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. J'ai tant fait patience qu'à jamais j'oublie. Craintes et souffrances aux cieux sont partis. Et la soif malsaine obscurcit mes veines. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Telle la prairie à l'oubli livrée, grandie et fleurie, dansant et livrée, au bourdon farouche des sales mouches. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne.
Merci à Jean Marty pour son intervention. Vous êtes bien sur Radio Saint-Afrique. Continuons cette émission de Tension Parasite Écho en Vagabond. Pour compléter ce témoignage, nous vous laissons entre les mains du docteur Bruel.
Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ?
Oui, je suis professeur à la faculté de médecine de Montpellier.
Est-ce que vous pouvez nous présenter l'Académie nationale de la médecine ?
L'Académie de médecine, c'est une académie qui regroupe une des membres élus par leur père, ayant qualité à réfléchir sur des problèmes de médecine et des problèmes de santé pour le public. Donc ce n'est pas une structure gouvernementale ou ministérielle, c'est une structure professionnelle.
Pourquoi vous êtes-vous penché sur la question des impacts sanitaires des éoliennes industrielles sur la population ?
Alors en fait, j'ai été contacté par le collectif Agir sur le Lévézou, parce que d'abord je suis aveyronnais, ensuite je connais bien le Lévézou qui est ma terre natale. J'ai été contacté par le collectif qui m'avait demandé d'essayer d'aider le collectif dans une argumentation sur les nuisances pour la santé de l'implantation d'un parc éolien, notamment surdimensionné.
Actuellement, que disent les études sur justement les impacts sur la santé des éoliennes industrielles ?
Alors, si vous voulez, jusqu'à aujourd'hui, n'ont été démontrés, ayant un impact sur la santé, que des nuisances sonores. Les nuisances sonores, il faut voir ce qu'elles induisent. Les nuisances sonores, ça veut dire derrière des troubles dont on sait qu'ils sont en général importants quand ils sont vécus sur la durée, parce qu'ils entraînent des troubles du sommeil, du coup une fatigabilité et éventuellement des conséquences secondaires qui sont plus ou moins compliquées.
Alors en mars 2006, l'Académie nationale de médecine a fait un rapport sur les nuisances. Quelles sont ses conclusions ?
La conclusion essentielle du rapport, c'est que tant que n'ont pas été démontrées par des études précises de terrain des innocuités en termes de nuisances sonores, l'Académie nationale de médecine recommande que l'implantation d'une éolienne, d'un générateur, donc, ne soit pas faite à moins de 1500 mètres d'une habitation existante.
Et comment sont prises en compte ces recommandations par les autorités ?
Ça a été très simple et très rapide, c'est-à-dire que dans les jours qui ont suivi la publication de la recommandation, elle a été vivement attaquée par tout ce que compte le lobby éolien, en disant que c'était des mesures de protection aberrantes, que ça n'avait pas lieu d'être, etc. On a de multiples exemples où, lorsque les riverains ont avancé une nuisance sonore qui était vérifiable sur le terrain et qui rentrait dans un cadre de non-respect de la recommandation d'éloignement du générateur par rapport à l'habitation concernée, il y a des propositions faites par le promoteur pour essayer de réduire cette nuisance. Mais jamais le promoteur ne reconnaît la nuisance sur un plan général. Il essaie toujours de la traiter à l'amiable, de manière à étouffer au cas par cas les plaintes les plus significatives.
Est-ce que vous estimez que les études menées par les promoteurs éoliens sont-elles suffisantes ?
Vous savez, quand quelqu'un fait une étude et la publie, c'est qu'en général, il veut que ça serve ses intérêts. Les intérêts des promoteurs de l'éolien, c'est pas de réduire l'implantation des générateurs éoliens. Donc les études publiées par les promoteurs éoliens sont des études qui donnent des résultats qui intéressent les promoteurs de l'éolien. Quand on regarde un peu plus près, c'est des études modélisées qui ont été faites en terrain plat où le relief et les conditions de développement des nuisances sonores n'ont absolument rien à voir avec l'implantation dans tel ou tel lieu dans lequel existent des vallonnements, des versants et où sur le terrain tous ces éléments-là viennent jouer. La loi n'a rien repris en termes de nuisances pour la santé. Je pense qu'aujourd'hui, les recommandations de l'Académie de médecine ne se sont pas traduites par des textes réglementaires parce que ce serait trop contraignant pour les promoteurs. Et donc, du coup, on est dans une situation dans laquelle le législateur se tait. Si j'avais à rajouter quelque chose, je dirais deux choses. Premier écueil aujourd'hui, c'est celui de la densification du parc. Elle se fait finalement en prenant des options qui vont contre l'essaimage éolien. Ce qui peut s'entendre, hein. Mais ça veut dire qu'on considère qu'il y a des régions que l'on ne doit pas polluer avec des nuisances liées à l'éolien. À un moment donné, il y a eu des responsables élus locaux régionaux qui ont dit « non, on ne peut pas en mettre là, on va massacrer l'aspect esthétique du coin ». Et que par contre, les endroits où on a commencé à mettre ces nuisances, alors là on peut y aller parce qu'il vaut mieux concentrer les nuisances là-dedans. Quand même, ça soulève deux questions. Ça soulève la question la quantité d'aérogénérateurs concernés et de la sommation des nuisances. Hein. Si à 800 mètres au-dessus, vous avez une éolienne, c'est pas la même chose que si vous en avez trois. C'est pas la même chose que s'il y en a 10. Elle pose aussi des problèmes qui ne sont pas des problèmes sanitaires immédiats, qui peuvent être discutés pour l'avenir. Mais quand on discute dans l'avenir, on vous dit nos enfants s'en préoccuperont. Hein. Mais c'est celui des friches industrielles, quoi. Aujourd'hui, l'intérêt des promoteurs, c'est d'implanter de l'éolien, d'en tirer le maximum de profit. Et puis, la manière dont ceci devra être géré, remplacé, démantelé, etc., ce n'est absolument pas leur problème. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième que je pourrais rajouter, c'est celui qui fait que la manière dont ont été gérées les autorisations, ça va contre la bonne vie sociale. Je m'explique. Vous ne pouvez pas accorder des subventions d'implantation à une commune qui implante les générateurs en limite de sa commune, un endroit où les nuisances sont supportées par la commune voisine, qui elle, ne reçoit aucun dividende par rapport à l'implantation. Et les éoliennes, ça a divisé sur les Vesoux, et je pense que ça, c'est pas très bon, parce que ça sert le promoteur que ça divise. Ce qu'il faut voir, c'est que dans les gens qui étaient pour, il y a des gens qui en sont quand même revenus, hein, qui aujourd'hui sont activement contre, parce qu'ils se sont rendus compte que dans la vie quotidienne, ils se sont fait flouer par l'argumentation qu'on leur avait donnée. Ils ont peut-être les indemnités qu'on leur avait promises, mais ils ont aussi des nuisances qu'on leur avait cachées. Moi, j'ai rencontré le préfet de l'Aveyron de l'époque, qui s'était déplacé sur le terrain sans prévenir de sa venue, ce qui veut dire qu'on n'avait pas le temps d'arrêter les générateurs. Il a demandé à venir des jours où il y avait du vent du midi. Il a constaté, lui, directement les nuisances. Après, vous avez un mouvement de fonctionnaires. On remplace le préfet par un autre préfet, en l'occurrence une préfète. Puis, on fait casser un jugement défavorable. Mais ça, c'est uniquement des pressions de lobby, quoi.
On remercie bien chaleureusement le docteur Jean-Michel Bruel pour son témoignage.
Par milliers, il tombe par milliers, il se cogne par milliers, aveuglé par milliers, assommé par milliers, il meurt.
C'était un petit extrait d'un poème de Prévert interprété par les frères Jacques. Nous arrivons à la fin de cette émission de Tensions parasites et courants vagabonds. Un dernier petit mot avant de se quitter. Si nous avons consacré autant d'émissions à cette thématique, c'est bien parce que sur notre territoire se pose, ou plutôt s'impose, la question du développement massif de l'éolien, et nous voulions mieux comprendre les tenants et les aboutissants. D'autant plus en cette période charnière où la question du transformateur à Saint-Victor avance à grands pas du côté de RTE, tandis que les opposants auraient besoin de soutien. Ce monde rural que nous habitons risque de se voir défiguré à jamais si ce projet aboutit. Jamais. C'est à peine exagéré tant que la question du démantèlement n'est pas résolue.
Par ces petites émissions, nous voulions apporter notre soutien à l'association du Plateau Survolté, qui se bat contre le transformateur à Saint-Victor, et à toutes les associations militantes contre les éoliennes, en cassant la belle image verte et durable de ces moulins à fric qui poussent plus que des champignons. N'hésitez pas à contacter l'association du Plateau Survolté si vous voulez être informé des événements à venir et les soutenir. Et si vous en revoulez, n'oubliez pas que toutes nos émissions sont réécoutables sur le site internet de Radio Sainte-Afrique. À bientôt pour de nouvelles réflexions. Do 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 do.